Bonjour et bienvenue sur Radio CSEURT, votre rendez-vous quotidien de l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 12 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Revenons à l'incident qui a touché la semaine dernière le Transport for London, TFL. Cette cyberattaque qui a affecté plusieurs aspects de son infrastructure informatique. La semaine dernière, je vous avais parlé qu'ils avaient eu leur serveur de messagerie et quelques systèmes de back-office. On apprend que c'est pas tout à fait ça. Bien que les services de transport eux-mêmes n'aient pas été interrompus, des éléments clés tels que les systèmes de gestion des cartes Oyster et des paiements par carte sans contact ont été mis hors ligne. Les cartes Oyster, c'est l'équivalent de nos passes Navigo pour les franciliens. L'incident a également perturbé l'accès à certaines informations en temps réel sur les services de transport, notamment les arrivées des trains. Donc les panneaux d'affichage ont été touchés aussi. L'attaque a conduit à une réinitialisation des mots de passe pour les 30 000 employés de TFL et les informations de clients, y compris les données bancaires de 5 000 personnes, pourraient avoir été compromises. On dépasse un peu le cadre du back-office. Bien que TFL ait d'abord affirmé qu'aucune donnée client n'avait été compromise, cette position a évolué au fur et à mesure de l'enquête d'après The Register. À ce jour, les responsables de la sécurité de TFL collaborent avec la National Crime Agency, NCA, et le National Cyber Security Center pour minimiser les risques et enquêter sur l'incident. Des mesures d'urgence ont également été prises pour renforcer la sécurité physique autour des infrastructures critiques de TFL. Alors jusque-là, quand on lit cette revue, on dit bon, ok, ils ont fait une déclaration partielle, on découvre que le périmètre a évolué, ce qui arrive dans tout incident de cybersécurité, il ne faut pas jeter la pierre. Mais où il y a deux contradictions dans cet article, c'est des mesures d'urgence ont également été prises pour renforcer la sécurité physique autour des infrastructures critiques de TFL. Et la seconde, un suspect, un adolescent de 17 ans a été arrêté dans le cadre de cette enquête. The Register continue à nous informer que l'attaque aurait potentiellement exploité une vulnérabilité dans des équipements informatiques réseau tels que des commutateurs Cisco, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé. Affaire à suivre. Le groupe de ransomware Hunters International a revendiqué une attaque contre la filiale londonienne de la Banque industrielle et commerciale de Chine, ICBC, l'une des plus grandes banques mondiales. Les cybercriminels prétendent avoir volé 6,6 teraoctets de données, comprenant plus de 5,2 millions de fichiers. Ils menacent de publier ces données si leurs exigences ne sont pas satisfaites avant le 13 septembre 2024. C'est demain. Cette attaque pourra avoir des conséquences importantes, notamment en exposant des informations sensibles sur les clients, ce qui pourrait gravement nuire à la réputation de l'ICBC. Faut pas oublier que les banques sont quand même des cibles privilégiées des gangs de ransomware, en raison de leur nature critique des données qu'elles détiennent. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Par contre, Hunter International, bien que relativement nouveau dans le paysage du ransomware, a rapidement gravi les échelons avec plus de 130 attaques revendiquées cette année. Ce groupe utilise un modèle de ransomware as a services offrant ses outils à d'autres cybercriminels. Je vous mettrai le lien de l'épisode qu'on avait fait sur le groupe Hunter International. Ouais, ils sont brillants, mais c'est pas des nouveaux venus. Ils sont apparus juste après la dissolution de Hive, qui était un autre groupe. Quelques doutes qu'il y ait une petite chiffonnade entre les fondateurs et qu'ils ont recréé un groupe. Ou une arrestation, tout simplement. L'ICBC n'a pas encore confirmé publiquement l'ampleur de cette violation de données. Mais l'incident est surveillé de près par les agences de sécurité du monde entier, notamment en raison de la position stratégique de la banque dans le système financier mondial, d'après toujours The Register. Dans la rubrique justice américaine, on apprend que John B. Hart, un homme du Colorado, a été condamné à 8 ans et 1 mois, soit 97 mois de prison, pour cyberharcèlement de 3 personnes à Hawaï, dont une ancienne compagne et ses partenaires. Hart a utilisé des applications anonymes pour envoyer des menaces, créer des faux profils en ligne et tenter de rejeter la faute sur une victime innocente. Il a également détruit des preuves pour entraver l'enquête. L'affaire a été menée par le FBI et le bureau du procureur des États-Unis. Fortinet a confirmé une violation de données après qu'un acteur malveillant a affirmé avoir volé 440 gigas de fichiers depuis un serveur Microsoft SharePoint. Ce pirate, sous le pseudonyme de FortiBeach, a posté sur un forum de piratage en ligne, partageant les informations volées et tentant d'extorquer Fortinet en échange de leur non-publication. Cependant, Fortinet a refusé de payer le rançonneur. Avec un nom pareil, c'est normal, hein. FortiBeach. Oh, il abuse, le gars. Tu peux pas être pris au sérieux avec un nom pareil. L'entreprise a déclaré que l'accès non autorisé concernait un nombre limité de fichiers sur un espace de stockage cloud tiers et a indiqué avoir communiqué directement avec les clients potentiellement affectés. Fortinet n'a pas divulgué précisément combien de clients ont été impactés ni la nature des informations compromises. Il faut savoir que c'est pas la première fois que Fortinet est confronté à des cyberattaques. L'entreprise a également été la cible d'autres incidents de sécurité au cours des dernières années, notamment des vulnérabilités exploitées dans ses solutions VPN d'après Blipping Computer. Le CCIRT de Fortinet à un niveau, ce sont vraiment des maîtres. Donc, quand on lit ce genre de choses, bon, c'est normal, Blipping Computer fait un article, ils ont besoin de faire un peu de buzz. Mais ayant eu affaire au CCIRT de Fortinet à plusieurs reprises dans ma carrière, bah, je les recrute quand ils veulent. Et puis le pirate, avec un nom FortiBeach, mais il n'a aucune chance, le pauvre. Enfin, je partage avec vous cette nouvelle d'Europol qui aborde la montée des crypto-monnaies dans les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent. Europol insiste sur l'importance d'une stratégie globale pour garantir la sécurité impliquant une collaboration entre régulateurs financiers, autorités publiques et le secteur privé. L'agence recommande aussi le développement d'outils spécialisés pour surveiller et tracer les transactions suspectes. Cette approche vise à renforcer la lutte contre les crimes économiques tout en s'adaptant aux nouvelles technologies liées aux crypto-monnaies. C'est vraiment grâce à ce type d'initiative et de coopération contre le crime organisé, et en particulier dans le domaine cyber, que les arrestations ont lieu à travers le monde. Enfin, dans la partie vulnérabilité, le CERTFR nous informe une vulnérabilité dans Palo Alto Network, PanOS, à travers l'avis CERTFR 2024-AVI0770. Cette vulnérabilité permet de l'exécution de code à distance. Lisez l'avis si vous avez du Palo Alto, parce que ça touche aussi les clients Global Protect, donc c'est le client VPN, et il suffit que la personne ait accès et qu'il soit authentifiée, elle peut vraiment prendre la main sur le routeur, faire ce qu'elle veut. C'est assez passionnant, surtout faut patcher, c'est ça le but, faut patcher derrière. La seconde notification du CERTFR concerne GitLab, c'est un serveur qui permet d'héberger des sources, et où plusieurs vulnérabilités ont été découvertes. Vous trouverez les liens en description de cet épisode. Toutes ces failles sont vraiment à mettre à jour, elles sont sensibles, mais ce que je voudrais surtout insister, c'est il faut vraiment pas hésiter à consulter le matin le site du CERTFR sur la partie vulnérabilité. C'est gratuit, ça prend quelques minutes, c'est de qualité, vous avez tous les liens pour aller vers l'éditeur ou le constructeur suivant le type de compromission, et vous gagnez du temps, c'est-à-dire qu'il vous faut quelques minutes pour savoir si vous allez avoir une journée compliquée et si vos équipes de patch management vont vous mettre une poupée vaudou à votre nom. Et voilà, ce podcast de Radio CSR du jeudi 12 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez tous les liens qui ont permis de construire cette revue d'actualité dans la description. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Je vous parlerai demain de... Je vais rajouter une rubrique sur la cession des entreprises. Parce qu'il y a des trucs intéressants qui se passent sur le marché. On a appris que Mastercard venait de racheter Recordit Future, un acteur de cybersécurité important au niveau de la CTI. C'est sympa, ça va donner des moyens à cette entreprise assez intéressant. Bon, on va aller se coucher là. Je fais le montage, je publie et on se revoit demain. À plus.